Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick.
Comment allez-vous ?
Pas mal, et vous ?
Eh bien, ça va pas trop mal, merci. J'aurais une question ce matin de décembre. Aimez-vous Brahms ?
Oula ! C'est difficile à répondre comme question.
Oui, c'est pour
ça. Parce qu'en fait, quand on commence à écouter la musique classique, nos goûts évoluent quand même.
Oui.
Donc, on aime ceci, on aime cela en fonction de notre cours de la vie, en fait.
Très bien.
Et quand j'ai découvert Brahms, c'était une musique... En fait, c'est une musique qui est profonde. Elle est romantique et moi, ça me plaît. Voilà, donc elle a une puissance. Et puis, moi, je pense qu'elle a un lyrisme écervelé.
D'accord.
Bon, c'était super, ce... J'adore Brahms.
C'est une valse, c'est la fameuse valse,
oui.
Opus 39. C'est une valse, tout simplement, qui dure peut-être 3 minutes, que Johannes Brahms composa dans les années 56, dans les années 60 déjà. L'inspiration était venue suite à un paysage, suite à la mer qui était calme ce jour-là, et puis le mystère, on va dire, de l'inspiration. L'art, la nature, et puis ce qu'on a dans le cœur, on va dire, comme vous venez de dire, en réalité, eh bien, nous avons ce petit chef-d'œuvre que j'ai entendu pour la première fois, j'avais 6 ans à peu près.
C'est ça, c'est ce que je disais, on voilà. Fait des découvertes avec Brahms.
Voilà, 6 ans, c'était l'émission, après c'était dans les années 50 à peu près, le dimanche matin, il y avait une émission.
Sur les musiques classiques.
Oui, classique, et puis aussi des chansons de variété. Et on passait les souhaits des auditeurs.
C'est ça.
Alors, pour un monsieur ou madame un tel, nous allons écouter. Et plusieurs fois, j'avais entendu ce piano.
Cette valse.
Et voilà. Et j'ai esquissé quelques pas à 6-7 ans. Et j'avais trouvé très beau. Mon père m'a dit que c'était Brahms. Alors, moi, je n'ai pas bien compris. En grandissant, j'ai découvert que c'était la valse de ce grand compositeur. Mais il a fallu du temps pour le découvrir.
C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait.
Beaucoup.
C'est au fil du cours de notre vie, en fait, on fait des découvertes.
Plus difficile que Mozart, peut-être. C'est pas pareil, je sais.
Mais non, c'est pas... Enfin, je l'aime plus que la moyenne, en fait.
Oui.
Si on met sur une échelle, en fait, Brahms, c'est sur la moyenne. Il est bien dans la moyenne, en fait.
Il est bien dans la moyenne.
Un peu plus.
Il avait donné son titre, François Sagan avait écrit « Aimez-vous Brahms » en 1959.
Oui, parce qu'en fait, c'était un livre qu'elle avait écrit en fonction de... c'était une décoratrice qui avait 2 amants dans sa vie. Et un jeune et un plus vieux. Et le plus jeune lui a envoyé ce petit mot en disant « Aimez-vous Brahms ».
Voilà.
Et c'est, ça part de là quand même, en fait.
Voilà.
Voilà.
Donc, Brahms, c'était déjà dans la littérature française.
Voilà, voilà. Alors, il est né quand, ce Brahms?
Il est né à Hambourg. Hambourg. Oui. C'est la ville où sont partis les hamburgers, vous savez, oui. Où les marins, quand les marins partaient en Amérique, quand ils partaient, ils emportaient de la viande qui était très, très salée, la viande qui était hachée, qui était salée pour que ça conserve. Et on les menait sur le pont du navire, parfois ça tanguait. Donc, ils prenaient un morceau de pain et ils le coupaient horizontalement. Ils mettaient la base en pain, ensuite la viande hachée et remettaient l'autre partie pour bien le tenir, pour pas que le vent le prenne ou que les mouettes se régalent. Il y avait aussi ça. Et comme ces bateaux partaient de Hambourg, eh ben c'était des hambourgeois. Donc quand on mange un hamburger, on mange des hambourgeois aussi. Ils arrivent ensuite à New York ou à Charleston ou Boston, peu importe. Voilà. Il est donc né à Hambourg. Hambourg. Ville du nord de l'Allemagne, au bord de l'Elbe.
Il est né le 7 mai,
1833, dans une famille assez pauvre, très modeste. Le père était ce qu'on appelait musicien municipal, on va dire. Voilà.
Oui, c'était fonctionnaire.
Un fonctionnaire, était salarié de la ville, dans les villes du nord.
D'ailleurs, quand il est né, il y a une légende quand même.
Dites voir.
Au moment de sa naissance, c'était donc le fameux père qui avait les clés d'une armoire,
oui,
dans laquelle étaient enfermées toutes les partitions.
Oui.
Donc, ils attendaient le papa pour pouvoir jouer. Donc, le concert a été un peu retardé. Enfin, c'est peut-être une légende, hein, dirons-nous.
Oh, mais c'est comme dans l'Ouest américain. Quand la réalité n'est pas très claire, on préfère
mais
la légende.
Mais c'est drôle.
Et c'est bien. Donc, pour cause de musique, bien le concert a failli mal commencer.
Oui, il était un peu retardé.
Fils s'est bien rattrapé
après.
Oui,
il est arrivé à temps.
Il a eu un frère et une sœur aussi.
Oui.
Et bon, le père, donc, était musicien salarié, musicien local. C'est-à-dire, il jouait pour les naissances, les mariages, les décès, les enterrements et autres fêtes de la ville. Et c'était une institution qu'on retrouvait dans le Nord, dans les pays anglo-saxons, scandinaves aussi. Il fallait qu'ils jouent de plusieurs instruments.
C'est ce qui se passait.
Plusieurs instruments et qu'ils soient un peu, pas corvéables à merci, non, mais disponibles presque 24 heures sur 24, voilà. Car parfois, quelqu'un décédait, eh bien, c'était la coutume, on accompagnait le mort, ou on le veillait en musique.
Voilà,
maintenant, on ne fait plus de veillée, c'est différent. On le veillait en musique et on se mettait au piano. C'était une autre façon de concevoir le grand passage. Donc, notre Brahms, c'est un vieux mot allemand qui signifie Brahm. Si j'enlève le S, ça veut dire le genêt. Il y avait beaucoup de genêts dans l'Allemagne du Nord. Et le S, c'est un...
Son.
Nous rappelle son en anglais ou zone en allemand. Comme Johnson, par exemple. Brahmson, le fils de genêt, si on veut dire. Brahmson. C'est quelqu'un... Donc, le père va découvrir tout de suite les talents de Johannes... Et très tôt, et il va vouloir d'abord qu'il aille à l'école, qu'il apprenne à lire, à compter, à écrire, ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est ce qu'il va faire, un petit peu de latin aussi un tout petit peu d'anglais, parce qu'on est à Hambourg, c'est un port qui fait beaucoup de commerce et beaucoup de bateaux partent à Londres, mais surtout en direction du Nouveau Monde. Et quand ils partent chargés des migrants, ils reviennent chargés de produits pour ne pas rentrer à vide et avoir une perte financière. Le père est assez jeune, il a 24 ans à peu près, et la mère est à 41 ans. C'est ainsi.
Plus âgée.
Beaucoup plus âgée. La pauvre, la nature ne l'a pas aidée, elle est boiteuse. Mais ce sera l'amour éternel pour son fils, on dira.
Oui, et partagé d'ailleurs.
Partagé, sa mère vénérée, on peut dire, dit pour Edgar Quinet, que sa mère était vénérée. Eh bien, Brahms aussi aura un amour infini. C'est ce qui explique peut-être, bien qu'il ne se mariera jamais, bien qu'il eut les occasions, bien qu'il connût beaucoup de femmes, il préférera finalement... Son indépendance,
sa solitude.
Être tranquille Et il était marié, on va dire, avec la musique.
C'est
voilà.
Ça. Mmh.
C'est un musicien qui aime sa ville, qui veut honorer sa ville et qui veut toujours qu'elle soit plus grande que les autres. Et son vœu le plus cher est de diriger l'harmonie municipale et le grand orchestre de la ville, ce qui lui sera refusé parce qu'on le trouve trop indépendant, on le trouve un peu trop peu intériorisé, on lui trouve tout un tas de défauts, pour nommer quelqu'un d'autre, mais qui est en réalité beaucoup moins capable, mais qui est plus comédien, qui est plus ouvert aux gens, quoi. Donc plus tard, il en souffrira beaucoup.
Et vous savez qu'à 13 ans, il jouait dans les tavernes, quand même.
Alors oui, j'allais arriver que dans les 13
c'est
ans...
C'est quand même
c'est, et oui,
inouï.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi il jouait ? Ben parce que dans la famille, le traitement de la ville, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quand même 3 enfants. La vie était dure. On vivait dans un taudis, lequel taudis était dans un vieil immeuble qui a disparu en 1943 lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et voyant qu'il était très doué, plusieurs patrons de tavernes, disons de boîtes à matelots, on est à Hambourg, ont fait venir le petit Brahms, comme vous dites, à l'âge de 13 ans, pour jouer du piano dans les tavernes enfumées.
Mais en plus, il commence déjà à composer.
Il commence déjà à composer.
À 13 ans, il commence déjà à
tout
composer.
Tout à fait. La journée va à l'école.
Donc, inutile de dire qu'il avait quand même...
Il a un don, un sacré génie.
Oui.
Et le soir, jusqu'à peut-être minuit ou 2 heures du matin, le petit garçon, eh bien, il est dans cette ambiance un peu étrange, un peu spéciale.
Un peu enfumé.
Bon, il peut manger ce qu'il veut, il peut boire ce qu'il veut, il ne fume pas encore, mais enfin, il est enfumé et il joue beaucoup de chansons et ça lui forme les doigts. Mmh. Ça lui
D'ailleurs,
forme
il invente une espèce de solfège.
Il a un solfège personnel.
C'est ça, c'est lui-même qui l'invente.
Voilà, c'est ça.
C'est bizarre.
Donc, déjà, on sent peut-être un petit bonhomme qui sait où il veut aller.
Il avance comme ça, c'est
et bien. Il avance ouais. comme ça. Et très souvent, le matin, eh bien, il dort, parce que les nuits sont musicales. Et pendant très longtemps, eh bien, il va aller jouer dans les boîtes. Il va aller jouer aussi pour des concerts, pour des fêtes, pour des goûters. On l'invite, parce que c'est le fils du musicien municipal. On invite le père et le fils. L'un se met au violon, l'autre au piano. Et tout le monde chante, tout le monde boit un coup et tout le monde est content. Voilà.
Et lors d'une de ses tournées concert à Hanovre, il rencontre le violoniste Johann Joachim, c'est ça ? Qui l'introduit auprès de Franz Liszt.
Voilà, il va être introduit, comme vous dites, grâce à Joachim, le violoniste.
C'est ça.
Il l'introduit auprès de Franz Liszt, qui n'est pas n'importe qui.
Mais il y aura peu d'affinités entre eux. Liszt et puis Wagner, pour lui, c'était trop en avance. Sa musique, leur musique était quand même différente. Par rapport à lui, il était un peu plus classique.
Il avait beaucoup écouté Mozart. Bach, c'est celui, c'est l'architecte, on va dire, au point de vue musical.
Mais c'est colonne vertébrale,
c'est l'architecte.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il disait ? C'est quelqu'un qui... C'est Olivier Bellamy, vous connaissez Olivier Bellamy, dans son bouquin « Bach, le père immortel », page 63, il dit « Jean-Sébastien Bach sera un compagnon fidèle des jours les plus sombres de son existence, et même un frère bien-aimé. » À la mort de sa mère, Johannes trouve la consolation dans les variations Goldberg qu'il joue de mémoire.
Oui.
Pour lui, la musique la plus élaborée se doit d'honorer l'art du sentiment. Certains musiciens n'hésitent pas à comparer Brahms à Bach en ce qu'ils ont tous deux opéré une synthèse de styles musicaux sans cesser d'être personnels. L'idée est audacieuse et Bellamy annonce « Au fait, Bach en allemand signifie en français ruisseau. Et Brahms est presque né au bord de la mer. La mer du Nord est à 110 km de Hambourg, mais la filiation s'impose tout naturellement. Donc pour lui, Bach, ce sera la base.
C'est le maestro pour lui.
C'est le maestro, c'est l'architecte. C'est celui qui compose jour et nuit, car il devait composer une cantate qui était présentée et qui était jouée tous les dimanches matins. et les yeux en ont souffert puisqu'il mourut totalement aveugle.
Mais et ensuite, après, il va rencontrer Robert Schumann.
Il y a Robert Schumann, ça c'est et la voilà, grande c'est, rencontre. La,
ben oui, c'est la un peu c'est une rencontre musicale incroyable.
Musicale incroyable.
Voilà.
Et puis il y aura le couple Schumann.
Ah,
il y aura
et il va rencontrer la femme de Robert Schumann.
Clara Schumann.
Et là, je crois qu'il est, je pense qu'il est épris et de Robert et de Clara Schumann.
Oui.
Parce que tout, je pense que c'est peut-être un trio.
Oui, on parle de musique, on peut parler de trio, c'est très étrange.
Oui.
On ne sait comment cela se dessina.
Ah, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Mais ça a toujours été un mystère.
Ah oui.
Et je pense que Clara Schumann a beaucoup fait. Et
c'était une pianiste quand même.
Pour l'inspiration.
C'était une grande pianiste.
Donc deux grands interprètes et compositeurs de talent. Et ensuite, heureusement qu'il y a Brahms, avec Schumann et Clara Schumann, parce qu'à Hambourg, il s'ennuie, donc il va à Hanovre, il voyage, on l'invite. Et puis, un beau jour, il se sent un peu malheureux et il veut aller plus loin. Et il y a une ville qui l'attire, une ville qui est la cité de la musique, on va dire, la grande ville de la musique, c'est Vienne.
Vienne, oui.
Et il va partir en Autriche, puisque les Hambourgeois n'ont pas voulu qu'il dirige leur grand orchestre.
Il était vexé quand même,
Il était vexé et le voilà parti. À Vienne, c'est l'Autriche-Hongrie, et on lui doit des danses hongroises merveilleuses, comme vous savez, et nous allons écouter, si vous le voulez bien, la numéro 5 est archi connue.
C'est envolé, ça. Hein
c'est très difficile à interpréter. Vous avez vu les, j'ai plutôt entendu les ralentis. C'est typique, c'est typique.
C'est typique, quand même c'est très scandé. Des changements de rythme.
De rythme.
Impressionnant.
Ouais, ça, Brahms adorait ça. Oui. Et il en a pris conscience quand il s'est trouvé en Autriche. Avant, à Hambourg ou en Allemagne du Nord, ce n'était pas tout à fait ça. Il avait rencontré donc Joseph Joachim, vous l'avez dit, futur grand ami. C'est un violoniste. Et violoniste disait, quelques temps après leur première rencontre, « Brahms possède un talent créateur tout à fait exceptionnel et une de ses natures, comme il ne s'en produit que dans la retraite la plus absolue. »
Les gens qui travaillaient avec lui, ils étaient quand même assez admiratifs.
Tout à fait. Son jeu est plein de feu, d'une énergie fatale, attention, et d'une précision rythmique qui révèle l'artiste. C'est très rythmé. Ses compositions contiennent plus de choses intéressantes que je n'en ai jamais rencontrées dans les œuvres d'un jeune homme de son âge.
Voilà.
Voilà, 1833, et cela est écrit dans les années 40 et les années 50 à peu
près. Il était très jeune encore,
Il était très jeune, et il composait même, comme vous l'avez dit, dès l'âge à peu près de 11-13 ans. Il avait déjà son petit solfège particulier, et c'était un travailleur acharné. Tous les matins, les gammes, car c'était un grand pianiste.
Ah oui.
Un grand pianiste. Donc, on l'a entendu.
Il était compositeur et
interprète. Et pianiste et interprète.
Ouais.
On a entendu tout à l'heure, dans le premier extrait, cette valse pour piano. Et pendant très longtemps, le piano, disons toute sa vie, le piano était l'unique meuble qu'il avait dans sa chambre d'étudiant, si on peut dire, dans son petit appartement de deux ou trois pièces, qui étaient sobrement meublées, un peu spartiates.
Mais il avait besoin de rien d'autre.
Non.
C'était son piano.
C'était
voilà.
Son piano, sa vie. Comme livre, il y avait la Bible. Étant luthérien, il puisait dans la Bible tout ce qu'il pouvait lire. Et il y avait quelques quand même, il avait Goethe, les auteurs allemands. Et il s'intéressait aussi, en bourgeois, au mouvement et arrivée et départ des bateaux. Ça l'intéressait parce que ça lui permettait de rêver.
Parce que c'était un mouvement perpétuel comme
ça. Comme un métronome.
C'est ça, en fait.
Voilà.
Ouais, oui.
C'était un peu comme un métronome. Il allait se promener sur les quais et rêver. Ce bateau part pour l'Angleterre ou pour l'Australie ou que sais-je. Là, il rêvait et son inspiration peut-être se nourrissait de ces grands moments. Il a composé un concerto pour piano qui n'a pas eu de succès.
C'est le premier, aucun succès.
La critique a été assez froide.
Il est descendu en flèche quand même.
Il est descendu en flèche. Ça ne fait rien, on va repartir de plus belle.
Et, voilà.
Pour un deuxième concerto qui a bien marché. Et on va écouter le quatrième mouvement de ce concerto pour piano et orchestre de Johannes Brahms. Vous avez parlé, il n'y a pas longtemps, de Robert Schumann.
Oui.
Et Robert Schumann, une fois, en 1853, avait invité à déjeuner le jeune Brahms. Et il lui avait demandé de se mettre au piano. Et donc, le couple avait écouté avec stupeur et puis avec étonnement.
Avec plaisir.
Et grand plaisir. Et quelques semaines plus tard, Schumann a fait paraître un article dans la presse le 25 octobre 1853 dans la Nouvelle Gazette musicale où il exprimait ce qu'il avait ressenti en écoutant le jeune Johannes Brahms. C'était les nouveaux chemins pour lui, vous voyez, le monde s'ouvrir différemment. Et donc, il écrivit dans cet article, « Il est venu cet élu au berceau duquel les grâces et les héros semblent avoir veillé. Son nom est Johannes Brahms, il vient de Hambourg. Dès qu'il s'assoit au piano, il nous entraîne dans de merveilleuses régions, nous faisant pénétrer avec lui dans le monde de l'idéal. Son jeu, empreint de génie, changeait le piano en un orchestre de voix douloureuses et triomphantes. C'était des sonates où perçait la symphonie, des lieders dont la poésie se révélait, des pièces pour piano unissant un caractère démoniaque à la forme la plus séduisante, puis des sonates pour piano et violon, des quatuors pour instruments à cordes, et chacune de ses créations, si différentes l'une de l'autre, qu'elles paraissaient s'échapper d'autant de sources différentes. » Il conclut « Quand il inclinera sa baguette magique vers de grandes œuvres, quand l'orchestre et les chœurs lui prêteront leur puissante voix, plus d'un secret du monde de l'idéal nous sera révélé. » C'est du beau Schumann, il savait aussi écrire, et je pense qu'il a...
Enfin, mais nous il, pensons, a, il a mis la pression quand même sur
percé.
Brahms.
Ah
ben oui,
il avait
parce qu'après un tel article...
Un tel article, eh ben c'est un des articles du 25 octobre 1953. Il est resté dans les annales, comme on dit, et donc il est toujours d'actualité. Quand on parle de Brahms et de Schumann, ou du couple Schumann, on cite toujours cet article, les Neue Bahnen en allemand, les nouveaux chemins, les nouvelles. Il a ouvert la route à d'autres possibilités. Et Schumann va, comme on dit, s'engager rapidement pour Brahms, si bien que ce dernier devient vite célèbre grâce à lui. En somme, c'est un peu un strapontin, non, c'est plutôt un tremplin.
Ah non, un tremplin.
Un
parce
tremplin
qu'il,
au
il,
début.
Il l'emmène haut quand
voilà,
même.
Voilà, hein. grâce à lui. Il le sort, il le change de siège, si on peut dire.
Oui, oui, oui.
Au début, oui. Il était un peu timide, Brahms.
Mais il est quand même assez sûr de lui, voilà. Laurence. Oui,
voilà.
Oui, il connaît quand même ses qualités, il en est
il
sûr.
Il connaît ses qualités,
oui.
Il sait ce qu'il sait, mais il lui faut du temps.
Oui,
il lui faut du temps. Et c'est le genre de personnage qui ont besoin peut-être...
il ne manque pas d'humour, d'ailleurs.
Ah non.
Parce qu'à un moment, il dit, si parmi les personnes présentes, enfin, il assiste à un concert, une réunion entre plusieurs personnes, il dit, si parmi les personnes présentes, il en est une que j'ai oublié d'insulter, je lui demande de bien vouloir me pardonner.
Voilà.
C'était quand même assez rigolo.
Oui.
Il ne manquait pas d'humour.
Non. Mais son aspect physique était plutôt réservé comme...
Ben, quand il était jeune, il était beau comme un dieu
voilà,
quand même. Hein.
Nous pensons au dessin.
Oui, magnifique.
L'unique dessin, il a 20 ans, réalisé par un peintre français de Carpentras, à Carpentras, qui est rarissime, et que j'ai eu le privilège de voir et d'avoir dans les mains il y a longtemps, à la grande bibliothèque Inghibertine de Carpentras, parce qu'il avait ce peintre, Laurence, on va l'appeler, il avait rencontré Brahms, il avait rencontré à Cologne les Schumann en même temps.
Ah, ils étaient inséparables. Hein.
Donc ils étaient inséparables. Donc il avait fait le portrait du trio, si je puis dire, et ce peintre a dessiné beaucoup d'autres compositeurs européens. Et il est décédé dans les années 1800 et quelques. Il est décédé à Montpellier. Merci à Lorenz pour ce petit chef-d'œuvre qui nous est parvenu encore et qui est gardé religieusement, si on peut dire, dans cette
bibliothèque
de Carpentras. Voilà. J'ai parlé de Schumann, vous avez parlé de Clara aussi.
Oui,
c'est intéressant de savoir comment il voyait cette Clara. Dans une lettre du 25 novembre 1954, il écrit soudain « Très cher ami, comme le tu intime me regarde tendrement. Mille merci pour cette lettre, je ne peux pas m'arrêter de la regarder, de la relire, comme si je lisais pour la première fois. Rarement les mots ne m'ont autant manqué que lorsque j'ai lu votre dernière lettre. » Et dans une autre, un peu plus tard, « ma bien chère Clara, ma bien-aimée Clara, je voudrais, je pourrais t'écrire tendrement comme je t'aime et comme je te souhaite de bonheur et de bonnes choses. Je t'adore tellement que je ne puis l'exprimer. Je voudrais t'appeler par des chéris et d'autres termes affectueux sans en être rassasié pour te courtiser. Tes lettres sont pour moi comme des baisers. » On va dire que tout est dit.
Oui, et c'est après l'internement de Robert Schumann dans un asile quand même.
Eh oui.
Il a été dans un asile psychiatrique.
Tout à fait.
Il a été enfermé. Donc, leur relation entre Clara et Johann Brahms, elle s'est intensifiée quand même. C'est une tonalité passionnée, de plus en plus. Et puis, la santé de Schumann va décliner de plus en plus.
La démence.
Oui, et donc Clara, elle sera inconsolable. Après, quand il disparaît, elle sera inconsolable. Donc, leurs relations vont se stopper quand même à ce moment-là.
Voilà.
Et ça a été dur pour lui, mais il a compris quand même que Clara ne pouvait pas continuer. Mais leur correspondance, elle était de plus en plus enflammée jusqu'à la disparition de Robert Schumann. Et à ce moment-là, je pense que la tristesse s'est installée et ils ne pouvaient pas continuer à avoir des relations aussi.
Non.
Mais je ne sais pas s'ils ont une relation aboutie ou si c'était simplement une relation épistolaire.
Il semble que ça reste un mystère encore.
Oui, épistolaire, parce qu'en fait, je pense qu'en s'écrivant comme ça...
On s'écrivait beaucoup autrefois.
À l'époque, c'est vrai.
Il n'y avait que ça.
Oui.
Il n'y avait pas les mails,
oui,
etc.
Mais l'intensité, si vous voulez, au fur et à mesure qu'il s'écrivait, c'était de plus en plus intense. C'était curieux quand même.
Et il a écrit d'innombrables lieds, Brahms, lieds, c'est-à-dire souvent des textes, une belle musique sur un poème d'écrivain ou d'auteur. Et chez lui, cela dépeint l'amour déçu,
un peu,
la solitude, la douleur, la mort libératrice dans un cadre de verdure. On trouve souvent ces thèmes-là chez Brahms, que ce soit la nature, la mort, et la mort brutale, puisque Schumann va se jeter dans le Rhin. Il s'était coupé un doigt aussi. Pour un pianiste, c'est gênant.
Ben oui.
Donc, une fois que Schumann est décédé, l'idée de la mort va venir un peu tarauder un petit peu Brahms. Et aussi, il y aura aussi ce parchemin qu'il a découvert, puisque Robert Schumann avait l'intention de composer un requiem allemand.
Oui,
mais la maladie l'en a empêché.
Mm-hmm.
Et quand il est décédé, Brahms voulait donc, avait décidé d'élever un monument musical à son ami Schumann, quand même, qu'il avait fait connaître et tout, en reconnaissance.
En remerciement, oui.
Et puis, sur ce, Brahms a perdu sa mère, qu'il aimait beaucoup, et il s'est mis au travail pour ce fameux requiem allemand. Alors, requiem allemand, c'est curieux. Romain Goldron, qui a beaucoup étudié la musique allemande, écrit « Parce que Brahms, désireux de créer une œuvre non confessionnelle, renonça aux textes liturgiques traditionnels et le remplaça par des paroles bibliques librement assemblées et chantées non en latin, mais en allemand, en pensant au peuple. »
Oui.
En pensant au peuple. Et l'intitulé signifie que la fresque chorale en six, puis ce sont des méditations sur les angoisses de la mort et le mystère de la résurrection, requiem, se donne pour un spécimen unique. Il n'y a que ça, d'où le mot « un », requiem, « un ». Et ce mot en langue allemande, sans prélude, sans quelque fonction liturgique. Et hors de toute idée, Brahms sélectionne dans l'Ancien Testament et le Nouveau des extraits et pour que ce soit une symphonie chorale funèbre. Et les premiers accueils ont été chaleureux, parfois un peu partagés, un peu douteux. Finalement, on s'est habitué à écouter ce requiem, qui est un des plus beaux qui soit avec les autres requiem très connus. Il a été, dans les pays anglo-saxons et pays germaniques, il a été un franc succès. Il a été exporté, si on peut dire, aux États-Unis. Et donc, nous allons écouter un des cinq ou six morceaux. Le cinquième est destiné à sa mère, mais le deuxième, c'est une marche un peu funèbre.
Oui, c'est ça.
On évoque les Hébreux qui marchent dans le désert. Et c'est un tempo qui fait un peu peur, très scandé aussi, avec beaucoup de timbales et beaucoup de timbres. Donc voici ce requiem allemand, que l'on dit humain, à une partie du second mouvement.
Thank you.
alors Gisèle?
Vous vous rendez compte qu'il a écrit quand même 4 symphonies en 9 ans. C'est vraiment un record.
Ah oui, 4 symphonies.
En 9 ans, c'était incroyable. Et Brahms, il était avec un, comment il s'appelle, Von Bülow.
Avec Von Bülow.
C'est ça. Donc Von Bülow dira même que cette première symphonie pourrait être la dixième symphonie de Beethoven.
Tout à fait. Donc c'est un hommage.
Ah ben oui.
Un hommage de Von Bülow qui était très exigeant. Et il ne s'était pas trompé sur le talent de Brahms. Et donc, il a composé ces 4 symphonies. Il avait déjà beaucoup travaillé. Et je reviens brièvement à ce requiem. Quelle est l'impression que vous retirez de ce mouvement très particulier ?
Ah, mais c'est une intensité énorme. Hein ?
C'est une intensité énorme. Je me souviens l'avoir entendu plusieurs fois à Outre-Rhin, puis aussi en France, à Lyon, par exemple, à Saint-Bonaventure, il y a très longtemps, c'était des Allemands. Ça impressionnait beaucoup, d'autant plus que...
Et puis le cadre, il joue beaucoup.
Le cadre, il joue beaucoup, un monde fou. Et puis cette musique, ce rythme, cette marche...
C'est très prenant.
Cette marche scandée par les timbales. Et
ses chœurs.
Le chœur et les chœurs mixtes. Les chœurs mixtes. Ça a été vraiment... Alors, la première de ce petit chef-d'œuvre, on va dire, a eu lieu pour le Vendredi Saint du 10 avril 1868. À la baguette, il y avait Brahms. À la baguette, il y avait Brahms. Et puis Clara Schumann était au premier rang. Elle était au premier rang dans cette cathédrale Saint-Pierre. Et chaque année, à Brême, par exemple, puisque tous les ans, il y a les journées Brahms. Et bien sûr, on donne le requiem et qui avait été préparé par le chef de chœur Rheinthaler, qui a eu un descendant que j'avais rencontré et qui se rappelait toujours quand son grand-père, ou presque arrière-grand-père, rappelait cette première en 1868 que les gens avaient été presque, on dirait aujourd'hui, scotchés.
Saisis.
En écoutant ce deuxième mouvement qui est si différent des autres. C'est pour ça qu'on a...
Et c'est ce qui fait la richesse, d'ailleurs.
Voilà. Les autres sont plus calmes, plus méditatifs, plus contemplatif, plus secret, si vous voulez. Peut-être à la radio, c'est à la fin, ça en fait trop de silence, alors que ce mouvement-là, je pense, ne peut pas laisser les gens insensibles, où le rythme vous prend, et les chœurs, et tout ce qui est accompagnement, et vraiment, c'est de la belle ouvrage. Voilà, de la belle ouvrage. Et nous continuons.
Mais bizarrement, il n'a jamais pu écrire d'opéra.
Non, pas d'opéra.
D'ailleurs, il disait lui-même...
Il y a le mariage
aussi. Il me serait aussi difficile d'écrire un opéra que de me marier.
Voilà, ben, tout est dit, quoi. Voilà.
Non, il n'a jamais fait d'opéra.
Il n'a jamais écrit d'opéra comme en Italie. Lui, il ne pouvait pas extérioriser, peut-être, il faut croire. Il faut croire qu'il ne pouvait pas extérioriser. Et donc, il s'est mis aux symphonies, finalement, parce que Mozart avait composé d'innombrables symphonies, les grands maîtres aussi, Beethoven, Haydn. Et donc, voilà les 4 symphonies. Elles ont vu le jour, ces 4 symphonies, elles ont vu le jour, la première à Karlsruhe, à Karlsruhe, en 1876. Un an plus tard, la numéro 2 à Vienne, parce qu'il réside désormais à Vienne. Il est viennois de cœur maintenant.
Mais oui, parce qu'il a été bien reçu là-bas.
Ah, là-bas, on l'a compris. Donc, il a eu toute facilité pour organiser les concerts. Il était choyé.
Ah,
donc,
oui.
Son côté bourru, un peu, a disparu. Il prenait ses repas toujours à la même auberge. Il y avait le hérisson rouge ou la boule d'or. Et alors, il adorait les enfants.
Il s'est bien occupé des enfants de ses frères et sœurs.
Et puis ceux
de Schumann.
De Schumann aussi.
Il a été parrain d'un des fils.
Tout à fait. Et dans les rues de Vienne, on le voyait souvent. Quand on voyait un bonhomme qui fumait le cigare, les mains derrière le dos, et accoutré un petit peu bizarrement.
Mais il était rondouillard.
Voilà.
Bon vivant.
Ah oui. Oui.
Mais il était ouvert à la modernité quand même, curieux de tout.
Curieux de tout,
oui,
tout à fait.
Ça. Oui, oui.
Tout à fait. Et alors les enfants le suivaient et l'entouraient parce qu'ils savaient que parfois ils s'arrêtaient et il leur donnait des bonbons.
Ah,
il donnait des bonbons. Donc le visage un peu austère, froid et tout, il lui arrivait un peu qu'il sourit ou qu'il se mit un peu à avoir les larmes aux yeux parce qu'il était hypersensible derrière ce masque de grisaille et les yeux verts et les sourcils broussailleux. On ne savait pas ce qu'il pensait. Et bien maintenant, la musique nous a dit ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il y a encore comme symphonie? Nous voilà la troisième symphonie.
Voilà.
La troisième. Elle a été composée un peu plus tard, en 1883, à Wiesbaden. Wiesbaden, presque... au bord du Rhin, pas, presque en face Mayence, et pas très loin de notre ville allemande de Bad Kreuznach, Wiesbaden, station thermale aussi, il y a Baden, et puis à Vienne. Et on connaît, on va écouter un peu, après le grand mouvement dans le désert du Requiem, voici donc un extrait de la troisième
symphonie,
la troisième symphonie, la numéro 3, que l'on retrouvera pour finir ensuite, mais avec une version tout à fait moderne. Mais nous n'en disons pas plus. Alors, allons-y avec la troisième symphonie, composée à Wiesbaden et à Vienne. Oui.
Je voulais rajouter quand même que c'est un homme du 19e siècle et il est le premier compositeur de cette époque à graver sa musique sur un support. C'est Thomas Edison qui a envoyé un ingénieur et c'est comme ça que la première était enregistrée sur un gramophone en 1889. C'est le premier enregistrement et on entend Brahms.
Oui,
c'est lui-même.
Il est bien en bourgeois, c'est-à-dire il regarde vers la tradition, mais il regarde toujours en avant.
Oui.
Vers le progrès, vers la modernité.
C'est ça, voilà.
Et vers les nouveautés du monde. La porte Hambourg est la porte du monde, on dit, etc. Je retrouve tout à fait, avant de terminer, toujours Clara, qui est toujours dans les
elle
parages.
Est toujours là.
Et elle est là, et alors il écrit, quand leur relation un peu s'éloigne, un petit peu, « Les passions n'appartiennent pas aux hommes comme des choses naturelles. Elles sont toujours des exceptions ou des exagérations. » Celui chez qui elle dépasse les bornes doit se considérer comme malade et songer un remède pour sa vie et sa santé. Les passions doivent vite s'estomper ou alors il faut les chasser. Et en 96, un an avant sa mort, Brahms reste en liaison toute sa vie avec Clara.
Jusqu'à la mort de Clara.
Oui, si vous croyez devoir attendre le pire, accordez-moi quelques mots avec lesquels je peux voir venir s'ouvrir encore les beaux yeux, avec lesquels beaucoup se refermera pour moi. » Là aussi, tout est dit. Et c'est quelqu'un qui mûrissait toujours ses œuvres, même ses textes, même ses livres. Et il avait copié très tôt une phrase de Goethe. C'était ses conversations avec Eckermann. Eckermann était le secrétaire de Goethe. Et le maître lui dictait parfois des idées qu'il avait en marchant comme ça. Et Brahms l'avait noté et l'avait gardé précieusement. Il existe une catégorie d'hommes remarquables qui sont dénués de tout don d'improvisation, de toute facilité. Ils ne créent qu'après une longue et calme incubation, qu'après avoir médité leur sujet dans le silence. De tels talents excitent souvent notre impatience, car on obtient rarement d'eux immédiatement ce que l'on attend. C'est pourtant la voie des plus hautes réalisations. Voilà ce qu'écrivait le jeune Brahms.
Et pour terminer, pour souligner quand même la modernité de Brahms,
tout à fait.
Gainsbourg a repris la symphonie numéro 3 pour écrire « Baby Alone in Babylon ».
Et voilà,
donc
tout à fait.
C'est Jane Birkin qui va la chanter.
Voilà, oui, et on remercie donc Jimmy aux manettes. Merci pour le travail colossal, chère Gisèle, que vous avez fait aussi. Vous avez été une érudite, comme toujours. Vous avez fouillé.
Et merci, Brahms.
Merci, Brahms. Aimez-vous, Brahms. Et alors, bonne fête de fin d'année, puisqu'on est début décembre. Et nous vous quittons avec Brahms. Et donc là,
et
maintenant,
Birkin.
En souvenir de sa disparition récente, hélas, place à Jane Birkin. Au revoir.
Pontiac, de Cadillac, de Bentley, L.A. de Rolls Royce et de Buick dans la nuit métallique. Babylon in Babylon noyée sous les flots de musique électrique, de rock'n'roll, tu recherches un rôle, tu recherches les studios et les traces de Monroe, les traces et le stress du ZDS de Los Angeles. Babylon in Babylon noyé sous les flots de lumière, de poussière, d'étoiles éphémères, du rêve. Peace.